Salut, c'est Alexis. On est le 21 janvier 2025. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast où on commente l'actu de l'IA et du no-code. Cette semaine, enfin aujourd'hui en tout cas, puisqu'il y a plusieurs épisodes par semaine, on a des actus qui mélangent un petit peu no-code et IA. Donc on est parti. Quatre actus que je vais vous commenter. Une petite étude sur l'IA que j'ai trouvée intéressante, comme d'hab, les ressources dans les notes. BaseRow qui lance son académie. Product Hunt qui lance le vote pour les Kitty, donc les awards de Product Hunt pour l'année 2024. Et enfin, un petit podcast où j'ai été invité qui s'appelle Monday Meeting. Petit podcast de 3 heures, donc voilà, pas petit podcast, mais je vous en dirai un mot à la fin. Allez, on est parti. Premier sujet, donc cette étude sur l'IA qui a été proposée par une société qui s'appelle Vellum. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé vraiment qui c'était, je dois avouer. Voilà, mais c'est une, je ne sais pas, est-ce que c'est un cabinet de recrutement, de quelque chose, on s'en fout un peu, peut-être un outil, en tout cas c'est Vellum.ai, mais encore une fois, allez voir, ouais, c'est une plateforme. Et donc ils ont fait une petite étude un petit peu sur l'état du développement de l'IA. Donc ils ont fait une étude, il y a 1200 développeurs et builders qui ont répondu. Alors il y a pas mal de chiffres intéressants, je vais juste vous dire un petit peu ce que j'ai retenu. Déjà c'est hyper bien présenté, c'est très joli. Ce que j'ai trouvé assez cool, c'est, voilà, donc qu'est-ce que les gens font avec l'IA? Alors, sans trop de surprise, les usages quand même principaux, mais c'est intéressant d'avoir des confirmations aussi, hein, des fois, c'est vraiment tout ce qui touche au texte, globalement. Donc, l'analyse de documents, le parsing de documents, c'est-à-dire vraiment parcourir des documents pour trouver des informations, les analyses en langage naturel et la génération de contenu. Un usage quand même qui est aussi très fréquent, c'est tout ce qui est customer service et chatbot, et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un des gros usages en entreprise. C'est vrai que de pouvoir avoir des chatbots qui répondent à votre place, à vos clients, ça fait quelques années hein, qu'on a des choses comme ça avec Intercom, etc. Mais là, avec les LLM, on atteint un stade où vraiment, bah, ça devient intelligent. Ça, branché à votre base de connaissances, on peut dire que dans 80% des cas, on peut remplacer quand même une interaction humaine. Donc, c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Voilà. Autre chose intéressante, en termes de modalité, bah, 94% des gens ils utilisent du texte pour en entrée des LLM, 62% des fichiers, ensuite c'est des images, et ensuite beaucoup moins de l'audio et de la vidéo. Donc voilà, on voit quand même que globalement, voilà, LLM c'est quand même encore un peu synonyme de texte, même si évidemment on a de plus en plus de modèles multimodaux, comme on dit, donc qui peuvent recevoir du texte, sortir de l'audio, recevoir de l'audio, sortir du texte, recevoir de l'audio, sortir une image, enfin toutes ces choses-là. Allez voir là sur ma chaîne YouTube, je vais publier, bah, pas aujourd'hui, mais enfin bon, du coup ça va pas être bien synchrone, mais demain ou après-demain, je vais publier une vidéo un petit peu sur l'interface real-time de Gemini, donc où on peut lui partager son écran, plus lui parler en même temps et vous répond en audio. C'est assez impressionnant en termes de multimodalité, en termes d'usage moins, je trouve. Mais voilà, allez voir la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube au passage. Et puis voilà, au niveau des providers d'API IA, OpenAI est loin devant les autres. Deuxième, Microsoft Azure, quasiment sur la même chose que Anthropic. Sachant que Microsoft Azure héberge aussi des modèles d'OpenAI, donc vraiment OpenAI en termes d'usage est quand même très loin devant. Et là, je ne parle pas juste de ChatGPT et tout, hein, mais vraiment des usages un peu techniques à travers leurs API, à travers leurs modèles et tout. Donc on est vraiment sur une très très grosse part de marché. Google est assez loin, j'étais assez étonné. Et par contre, un que je n'attendais pas forcément, c'est Grok avec un Q, qui est à 10% quand même d'usage. Ce n'est pas des parts de marché, hein, d'ailleurs, c'est les usages de 10% des gens qui ont répondu à l'étude utilisent Grok. Grok, c'est une plateforme qui est intéressante parce qu'elle est très rapide. En fait, ils ont développé des NPU, des processeurs qui sont un peu spécifiques pour travailler avec des LLM. Et donc, ils ont vraiment, c'est très très rapide. Je vous recommande de tester. C'est un peu plus cher aussi, mais c'est très intéressant, notamment même sur de la transcription, des choses comme ça. Très impressionnant. Voilà. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ouais, voilà. En termes les outils qui sont les plus utilisés en développement IA, donc un peu spécifique hein, à l'IA, il y a Vellum, ils se sont mis en premier évidemment. Bon, bah, c'est normal, hein, c'est eux qui font l'étude. LangChain, qui est un framework pour les devs, pour travailler avec de l'IA très facilement. Et il cite aussi Flowwise, qui est une implémentation visuelle en quelque sorte de LangChain, mais il cite aussi N8N, et ça c'est très intéressant de voir ça, parce que N8N, je le dis souvent, N8N a vraiment une longueur d'avance sur l'IA par rapport à Zapier, Make, etc. Voilà, donc, et c'est pareil, Nuten, c'est vraiment comme une implémentation visuelle de Longchain, et Longchain, c'est vraiment la référence pour travailler avec de l'IA, pour faire du chaînage. Parce que quand vous travaillez vraiment avec de l'IA, là, je ne vous parle pas juste de faire un appel à un LLM, lui poser une question, avoir la réponse, mais vraiment poser des questions, faire de l'itération, faire du routage, faire du chaînage, avoir une succession de LLM qui vous répondent, faire appel à des bases vectorielles pour introduire de la connaissance, des choses comme ça. Vous devez aller sur des outils un peu plus évolués. Et N8N est un excellent choix pour ça, je le redis souvent. Voilà, bon, globalement, allez voir l'étude. Je vous ai dit des trucs qui, moi, m'ont le plus intéressé. Vous y trouverez peut-être d'autres choses qui vous intéresseront. Deuxième news, BaseRaw, donc, qui est une alternative open source à Airtable, donc qui est sur ce même segment hein, que NocoDB, que d'autres outils un petit peu comme ça. BaseRaw, c'est quand même de loin l'outil qui est le plus proche de Airtable, même si ce n'est pas ISO en termes de fonctionnalité, mais on n'est quand même pas très loin. C'est un outil qui est une société derrière qui a fait une belle levée de fonds. C'est des gens qu'on connaît puisqu'ils sont, ils viennent au NoCode Summit. J'ai interviewé déjà Olivier Maes, un des cofondateurs sur Radio Contournement. Donc voilà, c'est un beau produit. Moi, ce que j'aime plus particulièrement, parce que je trouve que sur la base de données, très honnêtement, on est un peu sur un clone d'Airtable. Par contre, sur les interfaces, ils ont vraiment créé un constructeur d'application qui est assez intéressant. Donc voilà, vraiment que vous pouvez regarder. Voilà, il y a aussi, bon, effectivement, dans cette catégorie, il y a aussi Timetonic. Hein. Mais voilà, sur la création d'applications, d'interfaces, etc., je trouve qu'ils ont pris un tournant assez intéressant. Donc voilà, vous pouvez aller voir. Et donc, ils ont fait une académie, donc ça, c'est bien. Alors, c'est en anglais. Je vous mettrai les liens, évidemment. Et bon, je suis allé voir rapidement. C'est des vidéos que vous pouvez aussi trouver sur YouTube, hein, d'ailleurs, il me semble. En tout cas, elles sont hébergées sur YouTube. Elles sont bien organisées, l'académie est hyper bien organisée. Les vidéos sont un petit peu impersonnelles, je trouve. C'est une voix... Par contre, elles sont très bien faites, très bien produites. On voit vraiment très bien ce qui se passe à l'écran, il y a du motion design, etc. Voilà, par contre, c'est pas incarné. On voit pas la personne qui fait les vidéos, mais bon, ça, c'est pas grave. C'est un peu forcément mon biais de formateur, mais... Moi, j'aime bien, c'est dommage qu'ils aient pas trouvé quelqu'un dans l'équipe qui puisse un petit peu incarner l'académie, comme bon, Webflow l'a très bien fait, évidemment, comme Airtable l'a fait une époque avec notre ami Aaron. Voilà, donc, bon, à voir, mais en tout cas, si vous êtes intéressé et vous devriez vous intéresser à BaseRaw, moi, même si je suis un fan absolu d'Airtable, hein, il faut s'intéresser aux alternatives. Alternatives françaises de qualité, Timetonic, évidemment. Formation chez Contournement disponible là depuis quelques minutes littéralement puisque j'ai appuyé sur le bouton publier tout à l'heure. Et puis en open source, parce que ça fait quand même aussi une différence, BaseRaw et open source, vous pouvez l'héberger vous-même, etc. Et puis bon, d'un point de vue éthique, c'est quand même intéressant. Ben voilà, vous pouvez aller voir et donc c'est cool qu'ils aient fait une académie, c'est un très bon signal. Il y a plusieurs niveaux, il y a l'air d'avoir beaucoup de contenu, hein, donc plusieurs niveaux, niveau fondamentaux, niveau advanced, et puis un niveau expert qui arrive premier trimestre. Donc voilà la petite news du jour qui est quand même un signal fort sur cet outil parce qu'on le sait, hein, quand des outils ont des académies de qualité, bah, évidemment ça aide à l'adoption, mais c'est aussi un signe qu'ils ont compris qu'il fallait former, ils ont compris l'intérêt d'avoir du contenu, etc. Donc ça, c'est toujours des signes que moi j'accueille positivement. Troisième news, alors ça c'est une toute petite news, mais je suis allé voir du côté des Kitty Awards, donc c'est les prix que remettent chaque année Product Hunt. Product Hunt qui est un outil, hein, que vous connaissez probablement, où se lancent des produits régulièrement, où beaucoup d'outils no-code se sont lancés et ont trouvé de l'attraction. Eh bien, dans la catégorie no-code, cette année, pour 2024, il n'y avait vraiment pas grand-chose d'intéressant. Il y avait même des choses comme Lovable, qui est plutôt un outil quand même de code, qui génère du code. Donc, il n'y avait vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y avait, bon, chez Notion, enfin, chez Software, des petites fonctionnalités, voilà. Mais en termes de produit, il n'y a rien de game-changing, on pourrait dire, qui vraiment bouleverse un peu les choses, qui se soit lancé en 2024. Et ça, c'est un petit signal faible de ce que j'appellerais, on va dire, la maturité du marché no-code. Et c'est plutôt un signal positif, en réalité, à mon sens, dans mon interprétation en tout cas, parce que, eh ben, il n'y a pas besoin de nouveaux outils no-code toutes les 3 minutes. On a des outils déjà très solides, on a des outils très spécialisés. Vous voyez, sur un créneau comme Airtable, on a des alternatives françaises comme Timetonic, on a des alternatives open source comme BaseRaw. On a aussi même Picaform qui est une alternative. Alors, il y en a plein, il y a NocoDB, il y a plein d'alternatives. Il n'y a pas besoin de nouvelles, à mon sens. Ou alors, dès qu'il amène vraiment un truc qui soit vraiment révolutionnaire. Mais voilà, donc on atteint une certaine maturité. Et par contre, les outils se développent, ajoutent de la profondeur, ajoutent des fonctionnalités. Et ça, c'est très bien. C'est plutôt ça qu'on veut. Voilà, arriver à des choses qui soient stables, aussi avec des prix qui soient intéressants. À la limite, ça, c'est peut-être les seules innovations qu'on attend maintenant un peu aussi. C'est l'innovation par le prix, un peu par le bas. Bon, voilà, c'est pas forcément toujours aussi la meilleure chose à faire. Mais voilà, des nouveaux modèles de pricing, peut-être aussi qui peuvent séduire aussi, pas que les entreprises, mais aussi d'autres gens. À voir. Donc, voilà, un petit signal faible que je vous partage. Et puis, la dernière chose, et je vais finir là-dessus et je vais aller assez vite. J'ai été interviewé dans le cadre d'un podcast qui s'appelle le Monday Meeting, qui est un format de podcast que j'aime beaucoup, où c'est des formats très longs. Notre épisode dure 3 heures, littéralement, et j'ai vu que c'était pas le record. Donc j'étais un peu déçu, je me suis dit, bon, dommage, je vais pas avoir le record. Mais c'était un super format, j'ai passé un super moment avec trois des animateurs, trois des fondateurs du Monday Meeting, Serge, Félix et Vincent, voilà, qui m'ont été présentés par mon ami Doudou, que je salue au passage, membre émérite de la communauté NoCode depuis longtemps, qui m'a branché avec Serge, et voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois, et c'était cool, et je sentais déjà, bon, à chaque fois que j'ai rencontré Serge, j'ai passé des bons moments, des discussions intéressantes, mais en écoutant quelques épisodes, je me suis dit, bon, voilà, ça va être cool de participer. Moi, j'aime bien, je refuse rarement quand je suis invité dans un podcast, mais je refuse en général, j'aime bien les podcasts un peu ciblés sur des sujets, pas juste sur moi, quoi. Alors j'en ai fait un ou deux comme ça et je suis content d'avoir pu partager un petit peu mon parcours. Je l'ai fait il y a 4 ans avec Théo Maréchal, qui a un petit peu disparu là de l'écosystème, mais qui à l'époque faisait un podcast que j'aimais bien aussi et où j'ai accepté de me livrer un peu plus. Vous écouterez vraiment des anecdotes sur mon enfance et tout. Je vous mettrai le lien aussi. Mais bon, voilà, déjà j'ai pas envie de le faire trop souvent. Mais là, donc ça c'était il y a 4 ans que j'avais fait ça avec Théo. Et là, quand Serge m'a proposé, j'ai écouté, avant d'accepter, à vrai dire, j'avais écouté des épisodes et tout. Et je me suis dit, bah là, ça tombe à un bon moment. C'est-à-dire que là, j'arrive un peu sur une fin de cycle, puisque là, je suis sur la fin de mon cycle contournement. C'est pas du tout la fin de contournement. Au contraire, je pourrais même vous dire, je pense que contournement, c'est que le début, parce que vous allez voir, il y a des choses qui très, très fortes qui vont arriver là, cette année. Mais voilà, moi, c'est un petit peu la première vie, on va dire. Et j'ai plusieurs vies même de contournement en réalité, mais moi, j'arrive sur la fin et je commence un nouveau cycle, un nouvel arc, comme on dit chez les youtubeurs et etc. Donc voilà, autour de la création de contenu, de l'IA, bah là, ce que je suis en train de faire là. Hein. Voilà, et donc je me suis dit, c'était un bon moment. Et voilà, et en plus, j'aime bien. Déjà, je trouve qu'ils ont des voix de ouf tous les trois. Alors là, malheureusement, Félix était malade, donc il n'y en a que deux, mais ils ont des vraiment un peu deep et tout. Donc c'était des moments comme ça, un peu posés, un peu. Il y a un petit peu de musique aussi, d'ailleurs, ça c'est aussi, je trouve, un truc assez innovant. Et voilà, et franchement, j'ai passé un super moment. Donc voilà, et honnêtement, c'est aller au-delà, et ça, je savais aussi. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils posent des questions. Et c'est pas un parcours un peu chronologique, un peu machin. Enfin, il y a des sujets, on brainstorm, ils m'ont donné des idées, je leur ai donné des idées, c'est rebondi. Et donc, c'était vraiment passionnant. Donc voilà, franchement, j'ai pas vu le temps passer. Alors évidemment, comme tout le monde, bah, j'aime bien parler, j'aime bien raconter ma vie. Hein. Enfin, j'aime bien. Tout le monde aime bien, on l'assume ou pas. Moi, personnellement, c'est un truc que j'assume pas trop et que dans la vie, en général, je fais pas trop parce que j'ai tout de suite l'impression de m'entendre et de saouler les gens. Donc voilà, donc bon, bah, quand on me demande, je raconte, hein, mais sinon, par défaut, j'écoute plus que je ne parle en général, sauf quand on me lance sur des sujets que j'aime bien, mais ma vie, c'est pas forcément ce que j'ai le plus envie de raconter. Mais voilà, là, et je pense que pour le coup, c'est un peu différent de l'épisode avec Théo, où c'était beaucoup plus linéaire. Là, c'est parti aussi dans différentes directions, c'est parti assez loin, assez fort. J'ai pas vraiment réécouté l'épisode, mais voilà, je crois pas que je le réécouterai d'ailleurs en entier, mais vraiment un très bon moment, donc voilà, je vous mets ça aussi dans les notes. Voilà, bah écoutez, on s'arrête là. Ça fait déjà un beau petit épisode de 15 minutes. C'est déjà long pour mon petit format récurrent, quotidien, quasi quotidien. Merci. Allez voir les notes comme d'habitude. Et puis, s'il y a des choses qui vous ont intéressé là-dedans, n'hésitez pas à partager dans Média, sur le Slack de NoCode France, Média X NoCode. Il y a le lien dans les notes. On rebondit, on réagit, on commence des fils de discussion. N'hésitez pas à le faire, vraiment. J'ai pas envie de créer un nouveau fil à chaque fois que je poste quelque chose parce que je me dis que c'est un peu too much, ça va un peu polluer. Donc c'est juste, voilà, si vous en avez envie, on est entre nous, on est entre amis, vraiment. Donc n'hésitez pas à rebondir là-bas. Et puis sinon, vous pouvez toujours aussi m'envoyer des DM, des messages privés sur LinkedIn, sur Blue Sky, sur NoCode France. C'est là où je suis le plus joignable. Allez, à très bientôt.